conférencier avait perdu sa bonne étoile. Il est allé à Dieu, alors que c'était à Carbone.
Il était à la salle du plan d'eau, il n'y avait personne, je me suis dit vraiment, ça n'a pas intéressé grand monde.
Donc, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment un des plus grands spécialistes d'astronomie. Il en a fait une grande partie de son métier et de son activité professionnelle, et aujourd'hui il est président de l'Observatoire de Samara.
Ça c'est vrai. Et donc, grands spécialistes d'astronomie, il y en a plein. Il y en a des meilleurs.
Certainement, mais il a publié un petit ouvrage de familiarisation, d'initiation à l'astronomie, qui avait été d'ailleurs introduit par M. Rell, que tout le monde connaît, je pense. Et le plus simple, il reste avec nous à l'auberge espagnole, bien sûr, le plus simple, c'est de lui laisser l'étoile filante.
C'est ça.
Bonne soirée.
Merci. Merci, merci. Voilà, donc, désolé pour ce petit contretemps, parce que j'ai mes habitudes, en fait, à la Pupinvol, du côté de Rieux, et je découvre la salle de Carbone. Voilà. Il faudra que je relise plus attentivement mes mails. Alors, on va rattraper le temps perdu. Donc, j'ai proposé ce coup-ci de parler de la vie et de la mort des étoiles, et de leur naissance même. Et surtout, il y en a une qui nous touche de près, c'est le Soleil. Hein, le Soleil. Alors, je vais de suite vous faire un petit historique rapide. Il faut savoir que jusqu'au 19e siècle, donc bien après Newton que je vous montre là, hein, jusqu'au 19e siècle, on n'avait aucune idée de la distance des étoiles. C'est-à-dire que depuis les Grecs, on avait la sensation que les étoiles étaient sur une sphère des fixes. Les Grecs appelaient ça la sphère des fixes, et que les 3000 étoiles qu'on voit à l'œil nu étaient à la même distance. Donc on expliquait la différence d'éclat d'étoiles en fonction de leur grosseur. On imaginait qu'il y avait des grosses étoiles, des petites étoiles, mais qu'elles étaient toutes épinglées sur cette sphère des fixes. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que, par géométrie, par calcul de parallaxe, c'est des angles, il a fallu surtout attendre que les télescopes soient inventés pour avoir une précision suffisante dans ce calcul d'angle, on s'est rendu compte que les étoiles n'étaient pas toutes à la même distance, qu'il y avait des plus près et des plus proches. Donc on s'est dit peut-être que les plus près, c'est les plus brillantes, et les plus lointaines sont les moins brillantes. Et ce n'était pas vrai non plus. Parce qu'en fait, la solution, vous allez voir, c'était un mix des deux. Il y a des grosses étoiles, il y a des petites étoiles, il y en a qui sont près, il y en a qui sont loin, et c'est pas simple du tout. Donc on a réussi au 19e siècle à calculer la parallaxe d'une étoile, qui était dans le Cygne, une petite étoile, mais qu'on soupçonnait d'être quand même plus près que les autres, hein, parce qu'elle avait justement un angle de parallaxe mesurable. Voilà, donc à partir de là, on s'est dit, ben, les étoiles sont... Parce que quand on a mesuré cette étoile, on s'est rendu compte qu'elle était au diable Vauvert, d'accord ? Bien au-delà d'Uranus, Neptune, qui venait d'être découverte. Donc, là, on a été interloqué, disons, interpellé par les distances énormes. Alors, pour bien vous faire toucher ça du doigt, parce que c'est pas en vous disant que c'est à des milliards de kilomètres, vous allez comprendre. Donc, je vous ai amené une petite maquette qui vaut pas cher, une balle de tennis. Vous pouvez le faire avec des balles de tennis usagées, ça marche. Ça, c'est une étoile. Le Soleil, c'est une boule jaune. D'accord ? Imaginez que le Soleil soit ramené à la taille de cette balle de tennis, en sachant que le Soleil est 100 fois plus gros que la Terre. Donc nous, si le Soleil est une balle de tennis, on fait petite bille d'un demi-millimètre. Voilà, on est tous là-dessus. On est tous là-dessus. Et on se trouve à quelle distance de la balle de tennis? Si on veut garder, comprenez, les proportions. Hein, à la même échelle, on va représenter taille et distance. Eh bien, la petite Terre qui tourne autour de la balle de tennis, elle ne tourne pas comme ça à 20 cm. Hein. Je vais vous poser le Soleil ici, et puis je vais vous mettre la Terre, donc le demi-millimètre que j'ai ici, à la bonne distance. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, la Terre est ici. Et on tourne à 8 mètres de la balle de tennis. On fait un grand rond comme ça, de 8 mètres de rayon, en un an. Donc déjà, les distances, là, je crois qu'il y en a certains, ils sont bien assis. Hein. C'est pas à côté le Soleil. D'accord ? D'autant plus que je vais vous montrer la Lune. La Lune, je l'ai dans l'autre main. C'est une bille un peu plus petite que la Terre. Et elle tourne à 2 cm de la Terre. Donc Armstrong et ses copains, ils ont fait un voyage de 2 cm. 4 cm aller-retour. D'accord ? Et ça nous paraît un truc énorme, un exploit incroyable. À l'échelle de l'univers, à l'échelle de notre maquette, ils ont fait 4 cm aller-retour. D'accord ? Donc notre étoile est à 8 mètres de nous. Et bien maintenant, vu qu'on parle des étoiles, je vous ai amené une autre étoile. Il faut doubler le budget, il faut 2 balles de tennis. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les étoiles qui sont dans le ciel, ce sont d'autres soleils. Ça, on le sait de manière sûre depuis le début du XXe siècle, il n'y a pas longtemps. D'accord ? Que c'est la même chose. Donc le soleil est une étoile comme les autres. Et toutes les étoiles que vous avez dans le ciel sont d'autres soleils. Donc autant de balles de tennis. Je vais vous amener la plus proche du soleil. Je suis sympa. Vous savez comment elle s'appelle, la plus proche du soleil ? Vénus. Alors attention, attention. Vénus n'est pas une étoile, bien qu'on l'appelle l'étoile du berger. Et ça, c'est un gros piège. On devrait l'appeler la planète du berger. Bon, le berger, j'ai rien contre. Hein. Mais c'est pas une étoile, c'est une planète. Donc on devrait l'appeler... Alors peut-être je vais prendre un autre micro, parce que celui-là, il coupe de temps à autre. Peut-être qu'il y en a un autre là-haut, non ?
Il y en a un sur le...
Et non, mais celui-là, c'est pour enregistrer, je crois. Ah. Ah, il y en a un qui est là, je crois. Il a un fil, non ?
Mais...
C'est ça.
Si vous le mettez près du menton, ça a l'air de marcher.
Hein. Ah, c'est ce que je fais, mais des fois, ça coupe, hein. J'entends. Alors, bon, ça va, on continue. Donc, ça, celle-là, non, elle est à proximité de nous. Et on l'appelle Proxima, merci, voilà, c'est ça. Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de nous. Alors, on vous dit, elle est à 4 années-lumière, mais ça ne vous dit rien, ça. D'accord ? On va la mettre sur notre maquette. Notre maquette, je vous rappelle, on est à 8 mètres de notre étoile. Et je vous demande, à combien je mets la prochaine étoile là-bas ? Il vaut mieux que ce soit à plus de 8 mètres, sinon on tournerait autour de celle-là. D'accord ? Et puis en plus, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a d'autres planètes par là, jusqu'à Neptune. Et alors, sur notre maquette, Neptune, elle est à 200 mètres, déjà. Et elle tourne autour de la balle de tennis. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'elle est plus loin que 200 mètres. 1 km, soyons fous. 2 km. C'est la plus près, hein ? Toulouse. Toulouse, ça fait quoi ? 40 ? 35. Bon, vous êtes tous bien assis, hein ? Vous êtes tous bien assis. La plus proche étoile à cette échelle-là, cette balle de tennis, faudrait la poser à 2000 km. C'est deux fois la France. Voilà, quand on vous dit des distances astronomiques, c'est ça que ça veut dire. D'accord ? Donc les étoiles, quand on s'est rendu compte au 19e siècle que les plus proches étaient à 2000 bornes à cette échelle-là, on s'est dit... Observer des balles de tennis à 2000 km, on a beau avoir des gros télescopes, ça va être compliqué. Et il y a même des scientifiques à l'époque qui ont dit elles sont tellement loin qu'on ne saura jamais ce que c'est vraiment. Mais en science, il ne faut jamais dire jamais. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir quelques années après. Et justement, là, c'était quelques années avant. Il y a quelqu'un qui s'appelle Newton qui avait découvert que la lumière du soleil, en la faisant passer par un volet, là il y a un trou, hein, c'est dans une chambre noire, et en faisant passer ce rayon dans un prisme, ça diffracte la lumière et on fait apparaître l'arc-en-ciel. D'accord ? Ça s'appelle le spectre de la lumière. Autrement dit, dans la lumière blanche du soleil, il y a toutes les couleurs cachées. Et si vous refaites passer cet arc-en-ciel dans un autre prisme, vous retrouvez la lumière blanche. C'est-à-dire, quand vous mélangez toutes les couleurs, bah, ça ne fait pas marronasse, cacadois, ça fait du blanc. D'accord ? N'essayez pas avec la peinture, ça va pas le faire. Mais avec la lumière, c'est comme ça. D'accord ? Vous mélangez toutes les couleurs, ça redevient blanc. Et il s'est arrêté là, Newton. Ah oui, j'aime bien ça. Ça, c'est mon côté un peu musicien. Ça rappelle quelque chose à quelqu'un, ça ?
Pink Floyd.
Ah, c'est Pink Floyd. Pink Floyd, ils ont une pochette, peut-être de leur album le plus célèbre, où on a ça, justement, le rayon de lumière qui passe dans le prisme et qui devient l'arc-en-ciel. Cet album, il s'appelle Dark Side of the Moon. C'est bon, il y en a qui sont bien branchés. Là. Dark Side of the Moon, ça veut dire la face cachée de la Lune. Moi, je crois qu'ils auraient dû l'appeler plutôt The Dark Side of the Light, parce que c'est la face cachée de la lumière. C'est-à-dire que dans la lumière blanche, vous avez quelque chose de caché qui est tout cet ensemble de couleurs. D'accord ? Et quand vous allez l'étaler, ce spectre, et ça on l'a fait plus tard au 19e siècle, ça passait plein de choses au 19e siècle, juste après qu'on ait trouvé que les étoiles étaient très loin, on s'est rendu compte que dans le spectre du Soleil, vous voyez, on a tout l'arc-en-ciel ici. Tout ça, c'est la lumière blanche du soleil qu'on a étalée. Il y a plein de petits traits verticaux noirs. Vous les voyez ? Voilà, très fins. Et on s'est posé pendant longtemps la question, qu'est-ce que c'est que ces traits fins ? Hein ? Et on a trouvé, en fait, que c'était la signature d'éléments chimiques. Là, il m'a lâché. La signature d'éléments chimiques. C'est-à-dire que, vous, je ne sais pas si je vous ramène à vos chères études, mais on a vu quelquefois devant nous le tableau périodique de Mendeleïev. La classification, je vais vous le projeter, hein, pour vous rappeler un peu. Là-dedans, on a une centaine d'éléments chimiques. Tous les éléments qui constituent tout ce qui nous entoure et qui constituent nous-mêmes aussi. Le fait de ces éléments. D'accord ? Et on s'est rendu compte que ces éléments, ils étaient dans le Soleil. C'est-à-dire que dans le spectre du Soleil, il y avait un message secret, hein, « The dark side of the light hein, », il y avait un message secret, c'était tous ces éléments chimiques qui sont contenus dans le Soleil. Alors je vous donne quelques éléments. Par exemple, ce trait dans le bleu, c'est l'élément... Très bien, il y en a qui se souviennent de leur cours de physique. Donc c'est l'hydrogène. Ça, ça n'a pas tellement... interpellé à l'époque, parce que je veux dire que les étoiles, enfin, je vais plutôt vous le dire différemment, les étoiles, on sait à l'heure actuelle qu'elles sont constituées de trois quarts d'hydrogène, qui est le premier élément d'ailleurs du tableau, et de un quart d'hélium, qui est le deuxième élément du tableau. D'accord ? Donc il y a trois quarts d'hydrogène, un quart d'hélium. Et si vous analysez la matière qui est dans l'univers, les galaxies, les nébuleuses, tout ça, c'est fait aussi de trois quarts d'hydrogène et d'un quart d'hélium. Ça paraît logique, les étoiles sont issues de l'univers, donc elles sont fabriquées de la même matière avec les mêmes proportions. Jusque-là, vous me suivez. Hein ? Donc ça ne vous étonne pas de trouver de l'hydrogène dans le Soleil. D'accord ? Je vous montre une autre raie. Ah oui, voilà, ça c'est pour vous. Ça va mieux, non ? Vous l'avez déjà vu, ça ? Hein ? Voilà, ça me rappelle les trucs, ça. Peut-être ceux qui auraient arrêté le troisième, non, peut-être ils ne l'ont pas vu. Mais c'est le moment de le voir. C'est le tableau qui est vachement ingénieux, ça. Il y a tous les éléments dedans. Vous avez donc l'hydrogène à voie gauche, premier élément, et vous avez... Ensuite, l'hélium de l'autre côté, on va le voir. Donc là, vous avez une centaine d'éléments, vous avez tout là-dedans. Hein. Vous avez du fer, du nickel, de l'or, de l'argent, tout ce qui fabrique la matière. Et l'hélium de l'autre côté, le numéro 2. Hein. Donc l'univers est fabriqué à partir des atomes les plus simples. Hein. Trois quarts d'hydrogène, un quart d'hélium. Par contre, là, dans le spectre du Soleil, je vous... montre une raie un peu plus vers le bleu, là, proche du violet. Là, il y a un problème. C'est quoi, c'est là ? Du calcium. Je ne vous en ai pas parlé encore. Que vient faire le calcium dans une étoile comme le Soleil, qui est censé avoir que de l'hydrogène et de l'hélium ? Je vous montre une autre raie. Du magnésium. Merde, qu'est-ce que ça vient faire, ça ? Hein, là, il y a du magnésium, la raie du magnésium. Du fer, comme dans les épinards. Et qu'est-ce que ça vient faire tout ça ? Ah, ça c'est plus compliqué. Vous êtes très fort. Sodium, Na, sodium. Qu'est-ce que ça vient faire ça aussi ? Hein ? Alors en fait, je pourrais vous nommer toutes les règles, et on se rend compte qu'il y a pratiquement tous les éléments du tableau. Ils y sont déjà dans le soleil. Donc le mystère s'épaissit. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est une petite enquête policière pour savoir qu'est-ce qu'ils font déjà tous ces éléments-là, alors que l'univers étant fait uniquement que de 3/4 d'hydrogène, 1/4 d'hélium, les étoiles devraient avoir que ces deux éléments. Et la première qui nous tombe sous le nez, le soleil, elle a déjà tous les éléments du tableau. Alors les scientifiques, les astronomes se sont posés la question, hein, à partir du 19e siècle, mais qu'est-ce que c'est? Et, génial, à notre époque, on a la réponse. Donc vous allez voir, la réponse, elle est assez incroyable, mais elle arrivera dans une demi-heure. Alors, voilà les éléments, sodium, magnésium, calcium, fer, voilà, c'est l'élément 11, 12, 20, 26. Voilà, je vous ai encerclé ceux que je vous ai montrés. Mais en fait, ils y sont tous, hein, pratiquement, dans le soleil. Donc pour ça, pour comprendre un peu et tenter de répondre à cette énigme, il faut remonter à la formation d'une étoile. Comment une étoile naît? Et ça, on a une idée à peu près depuis la moitié du XXe siècle. C'est pas vieux du tout. Hein. Voici une galaxie. Une galaxie, c'est un ensemble de milliards d'étoiles. Dans une galaxie, vous avez une galaxie comme la nôtre, par exemple, 200 milliards de balles de tennis qui tournent. Nous, on tourne autour d'une. D'accord? Qui n'est pas du tout un endroit privilégié. Vous voyez, si notre galaxie, c'est celle-là, notre étoile serait par là, un petit point par là. Hein? On est un peu en banlieue galactique, hein? Pas du tout au milieu. Ces bras spiraux de galaxies, ils sont faits de gaz. Et ce gaz, il est fait de 3/4 d'hydrogène, 1/4 d'hélium. Vous avez compris, là, ça y est. Hein? Voilà. Donc les étoiles, elles vont naître dans ces nébuleuses de gaz. Voici une nébuleuse peut-être la plus célèbre du ciel, dans la constellation d'Orion. On a la nébuleuse d'Orion. Alors la nébuleuse d'Orion, pour les spécialistes en astronomie, elle est ici. Voilà, c'est ça. Sous le baudrier d'Orion. Ici, on a les trois étoiles, les trois rois mages d'Orion, la ceinture du chasseur, et dessous, on a, là ici, la fameuse nébuleuse d'Orion. Mais sur cette photo à très longue pause, on se rend compte que du gaz, il y en a partout, partout, partout. Regardez, c'est complètement rempli de gaz et les étoiles naissent dans ces nuages de gaz. Alors, comment elles font? Voici la nébuleuse d'Orion zoomée, ce coup-ci. Hein? Ça, vous venez au l'observatoire de Sabarat, on vous montrera ça, hein, au télescope. C'est magnifique. Voilà, on zoome dans la nébuleuse. Alors là, ce n'est pas avec le télescope de Sabarat, ça c'est avec le télescope Hubble, hein, qui est en orbite autour de la Terre. C'est le meilleur télescope qu'on a pour l'heure. Et à l'intérieur, on voit, donc on est dans les volutes de gaz ici, hein, de la nébuleuse, et ici, on a des petites étoiles. Alors en fait, ce n'est pas du tout des petites étoiles, ça s'appelle des gros bébés. Hein. C'est des énormes étoiles bien plus grosses que le Soleil, ils s'appellent des géantes bleues. Qui sont nées, c'est des bébés étoiles, elles viennent de naître, ces étoiles. Alors quand je dis qu'elles viennent de naître, ça fait plusieurs milliers d'années déjà. Et vous allez voir qu'à l'échelle d'une étoile, là, c'est hier. Hein? Donc elles sont nées au centre. Et regardez bien, hormis ces gros spots là, lumineux, il y a plein d'autres petits trucs. Mais alors c'est bizarre parce qu'il y a des trucs avec des virgules là. Là aussi. Il y a des trucs là aussi. Il y a une espèce de truc bizarre là. Vous voyez? Et donc on a demandé à Hubble de zoomer sur ces espèces de trucs bizarres. Et voilà les zooms. Donc on a quatre zooms ici. Donc on a effectivement quelque chose ici qui est un trait noir, comme ça. Hein, ou une bande noire. Ici on a une bande noire, mais il y a une grosse tache lumineuse au milieu. Ici, on a un ovale noir avec un petit point rouge. Et ici aussi, on voit un petit point rouge qui va arriver. Hop, je reviens. Donc, ça, c'est quoi? Ça, ce sont des fœtus d'étoiles. Ce n'est même pas des bébés. Elles sont là, vraiment, en gestation, en train de naître. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces gros nuages de gaz? Vous avez les nuages de, ce nuage de gaz qui va se fragmenter en plusieurs morceaux, en s'effondrant sur lui-même, par gravité, simplement. C'est-à-dire la matière va s'effondrer sur elle-même à des endroits et va former des grumeaux de gaz. Et ces grumeaux de gaz, en s'effondrant sur eux-mêmes, vont se mettre à tourner et à s'aplatir. Ça, c'est la physique qui veut ça. Donc on a des disques de gaz qui vont se former et à tourner. Et au centre de ces disques de gaz, la matière va continuer à s'effondrer vers le centre. Et c'est pour ça qu'au centre, quand la densité, la température va être assez élevée, l'étoile va s'allumer. L'étoile va s'allumer parce qu'on va voir que dans une étoile, on s'enclenche des réactions de fusion. Fusion nucléaire. J'expliquerai ça vite fait, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc là, on a effectivement des étoiles qui sont en train de naître. Là, on a une petite braise qui est en train d'arriver, là, ici. Voici notre système solaire à l'échelle. Vous voyez, c'est tout à fait la même taille. Là, vous avez l'orbite de Neptune. Donc c'est à peu près là, de la taille d'un système solaire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, ici, par exemple, vous avez bien le disque de gaz vu par la tranche. Pour ça qu'on a une bande noire. Et ce disque de gaz, il est opaque. D'accord? Donc c'est noir, on ne voit pas ce qui se passe. Jusqu'au jour où l'étoile s'allume comme en bas, et là, vous avez effectivement, ça y est, l'étoile s'allume, et elle éclaire tout le disque de gaz. Et dans ce disque de gaz, tout ce qui n'est pas tombé sur l'étoile, c'est-à-dire en gros 1%, parce que 99% du disque, ça fait l'étoile. Mais le 1% qui reste va s'agglomérer en plus petits grumeaux et ça va donner les planètes. Donc nous, on fait partie du 1% avec la Terre. 99% de la nébuleuse de départ a fait le Soleil. Et après, les grumeaux, c'est nous. Là, vous avez une vidéo qui est assez superbe. Voilà, c'est une vidéo simulation en 3D de donc de la nébuleuse d'Orion. Donc on va vers les quatre gros bébés, vous les reconnaissez? Voilà, regardez, c'est en 3D. Là, on a vraiment, on voit bien que les étoiles sont toutes à des distances différentes. On tourne, on voit les grumeaux, vous les voyez les grumeaux? Donc vous avez à la fois des bébés étoiles et des fœtus d'étoiles sur cette animation. On va passer derrière un nuage d'hydrogène et d'hélium. Vous allez voir. Voilà. Vous allez voir que c'est opaque. Pendant un moment, on ne voit rien. Et puis, on va se rapprocher. On va s'approcher d'un grumeau. Voilà. Vous le voyez? Je vais arriver sur l'image. Voilà. Là, vous avez quoi? Vous avez dans ce grumeau le disque de gaz. Vous le voyez? Oui. Avec l'étoile centrale qui est en train d'émettre des jets par ses pôles. Et tout ça est contenu dans une espèce de bulle. C'est pour ça qu'on parle de fœtus d'étoiles, qui est autour du disque. Voilà. Voilà comment le système solaire, notre Terre, le Soleil, les planètes se sont formés il y a 5 milliards d'années. C'est une théorie, mais qui tient super bien la route. Ça fait 60 ans qu'on l'a monté, et tout ce qu'on observe va dans ce sens-là. Donc c'est, on peut dire que on a une bonne idée de comment les étoiles se forment. Voilà. Et vous voyez que dans une nébuleuse, donc, naissent des dizaines, voire des centaines d'étoiles, tant qu'il y a du gaz. Voilà. Alors je vais passer à autre chose. Voilà les étapes. La nébuleuse en haut, puis l'étoile qui commence à se former, les planètes qui commencent à agréger tous les débris qui étaient autour, et en bas, ça ressemble à peu près à notre système solaire. Et alors ça, c'est les dernières photos qu'on a prises avec ce qu'on appelle de l'optique adaptative. C'est-à-dire qu'on fait des progrès tous les jours dans le domaine des télescopes pour avoir une meilleure résolution. Et là, on a pris une étoile qui est à 450 années-lumière, donc c'est très loin. Hein. Proxima du Centaure, c'est 4 années-lumière, donc c'est 100 fois plus loin. Et on voit le système en formation. Vous voyez ? On voit carrément un des dessins que je viens de vous montrer. Mais là, c'est une vraie photo. Vous avez l'étoile au milieu et chaque planète autour qui a creusé son sillon dans le disque de gaz et qui est en train de grossir, de se former. Voilà, nébuleuse d'Orion. Alors, les nébuleuses, c'est magnifique. Donc, on va quand même se rincer l'œil. Hein. La tête de cheval, ça, c'est magnifique. C'est aussi dans la nébuleuse d'Orion. Donc, dans tous ces nuages de gaz se forment des étoiles. Là, vous avez les nébuleuses du trèfle ou la trifide qui se trouve du côté du Sagittaire. Ici, le cœur de la nébuleuse trifide, où on voit, comme dans la nébuleuse d'Orion, les gros bébés en train de naître. Nébuleuse de la Lagune, qui est magnifique aussi, dans le Sagittaire aussi. En fait, vous avez deux grosses zones de formation d'étoiles visibles avec des petits télescopes d'amateurs. Vous avez l'été du côté du Sagittaire et l'hiver du côté d'Orion. Voilà. Donc si vous venez l'hiver ou l'été, on aura toujours quelque chose à vous montrer. Hein ? Et ça, il faut le voir avec ses vrais yeux. Alors vous n'allez pas voir ça, attention, ça c'est des photos prises avec des télescopes professionnels. Mais vous allez voir qu'il y a du gaz autour de certaines étoiles et vous savez que ça, c'est des pouponnières d'étoiles. Hein ? Voilà des détails. Voilà, c'est magnifique tout ça. Nébuleuse de l'Aigle. Voilà un zoom dans la nébuleuse de l'Aigle faite par Hubble. C'est peut-être une des photos les plus célèbres de Hubble. Hein. Ils ont appelé ça, les Américains, les piliers de la création. Ils ont peur de rien. Hein. Bon. Alors déjà, ce n'est pas des piliers, parce qu'ils ont décidé de mettre comme ça la photo, mais pour être comme ça. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bas dans l'univers. Hein. Donc ce n'est pas des piliers du tout, d'accord. En tout cas, ces colonnes de gaz, elles sont gigantesques. Hein. Ce n'est pas des cumulus, hein. C'est des trucs qui font plusieurs années-lumière. Et là-dedans se forment des étoiles, et au fur et à mesure que les étoiles se forment, ben, vos piliers de gaz ils disparaissent, ils s'évaporent, ils laissent la place à des étoiles. Hein ? Donc qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est qu'au bout d'un moment, ça va donner ça. Vous allez avoir un amas d'étoiles, avec encore un peu de gaz autour, hein, on voit le gaz dont elles ont été issues. Ça c'est les Pléiades, c'est-à-dire le taureau. Hein ? C'est le plus bel amas ouvert du ciel. Ce sont des jeunes étoiles. Alors, ce n'est plus des bébés étoiles, on va dire que c'est des étoiles adolescentes. Elles vivent encore en famille, chez papa-maman. Hein. Elles ne sont pas encore parties vivre leur vie, chacune de leur côté, mais c'est ce qu'elles vont faire. C'est-à-dire qu'un amas d'étoiles va éclater, lentement, hein, et chacune va aller vivre sa vie dans son coin. Le Soleil, par exemple, c'est une étoile adulte. Elle est dans son coin. On n'a pas d'étoile juste à côté. Hein. La prochaine balle de tennis est à 2000 km. Donc, il y a longtemps que le Soleil a quitté la maison. D'accord ? Voici les Pléiades à droite. Alors là, c'est un zoom arrière. Hein. Elles sont ici. Voilà. Les Pléiades sont là. D'accord ? C'est celles qui étaient là. D'accord ? Elles sont ici. Et vous voyez sur cette photo grand champ que, toujours pareil, le gaz, il y en a partout dans la galaxie. Dans le ciel, on ne le voit pas avec nos yeux parce que nos yeux ne sont pas assez... Et disait, hein, mais il y a du gaz partout. Donc voici l'étoile la plus proche de nous, à 8 mètres. Celle-là, on peut l'observer, hein, avec des télescopes, avec des filtres, parce que si vous observez sans filtre, eh bien, vous n'avez plus d'œil, c'est fini. Donc voici le Soleil avec ce qu'on appelle des protubérances. Il y a des grosses flammes qui sortent du Soleil. Et voici ce qu'on pense qu'il y a dans le Soleil, donc dans toutes les étoiles. Hein. On a à peu près identifié trois zones. Vous avez une zone au centre qui est le noyau. Dans le noyau, c'est là que la matière est la plus dense et la plus chaude. Ça peut monter à 10, 15 millions de degrés. D'accord ? Dans le noyau. Et là, les atomes d'hydrogène, ils sont tellement compressés par la densité et la gravité de l'étoile qu'ils vont fusionner. On a dit, ils vont se coller. Et en se collant entre eux, je vais faire simple, vous en prenez 4 atomes d'hydrogène, et ça va vous donner un atome d'hélium. Donc non seulement l'étoile, elle est faite de 3 quarts d'hydrogène et 1 quart d'hélium, au début, mais tout au long de sa vie, Elle va transformer son hydrogène en hélium. Donc, en fait, en calculant le rapport hydrogène sur hélium, on peut savoir quel âge elle a. Parce qu'on sait, on connaît parfaitement la vitesse à laquelle elle transforme l'hydrogène en hélium. D'accord ? Donc, ça nous amène à une autre conclusion aussi, c'est que l'étoile, une fois qu'elle aura transformé tout son hydrogène en hélium, elle sera arrivée au bout de sa réserve de gaz. Comme la bonbonne sous la gazinière. Quand il n'y a plus de gaz, ben soit on ne se fait plus à manger, soit on remplace la bouteille. Hein? Alors vous allez voir que dans le cas du soleil, on n'a pas de bouteille de rechange. Hein? On va en parler plus tard. Vous avez ensuite une zone radiative. C'est-à-dire qu'une fois que l'énergie s'est créée au centre, parce que dans cette fusion nucléaire, donc de l'hydrogène à l'hélium, vous avez un dégagement de photons, des particules de lumière. Et vous avez un dégagement d'énergie. Cette énergie, elle est transportée par cette zone radiative jusqu'à la surface, qui est une zone convective. Qu'est-ce que c'est qu'une zone convective? C'est exactement comme quand vous faites bouillir une casserole d'eau sur votre gazinière, justement. À la surface de l'eau, vous avez des bulles qui apparaissent et qui disparaissent. Parce qu'en fait, la chaleur monte et redescend. Les bulles arrivent en haut, éclatent, se refroidissent et redescendent. Et puis se réchauffent au fond et remontent. C'est un mouvement de convection. C'est ce qui se passe exactement à la surface du soleil, à la surface d'une étoile. Un mouvement de convection comme ça. Et vous allez voir des photos assez incroyables. On voit ces bulles. Il y a des bulles à la surface du soleil qui éclatent comme à la surface de votre casserole d'eau. Les voyez. Elles sont là. Ça s'appelle des granules. Chaque petite bulle que vous avez là fait à peu près la taille de la France. Donc c'est des grosses bulles. Hein? Voilà. Donc ça boue à la surface de l'étoile. Ça, c'est des vraies photos. Des fois, il y a une anomalie. Au milieu de toutes les petites bulles que vous avez autour, là, hein, vous avez une grosse tache qui peut faire la taille de la Terre, donc, à peu près. Hein, sombre. On appelle ça les taches solaires. Ça, on peut montrer ça très facilement aussi avec un télescope et un filtre. Ces petites taches, petites, qui font la taille de la Terre, quand même, ce sont des anomalies du Soleil, des zones un peu moins chaudes. Parce qu'en surface, vos bulles, elles sont à 6000 degrés. Vous voyez, de 15 millions de degrés, on n'est plus qu'à 6000 degrés. C'est toujours chaud quand même. Il ne faut pas s'approcher du soleil. 6000 degrés. C'est plus chaud que dans votre four. Et dans les taches, on va être à 4000 à peu près. C'est toujours quand même chaud aussi. On sait maintenant que ce sont des anomalies magnétiques. C'est important ce mot. Parce que le soleil, les étoiles, ce sont comme des énormes aimants. D'accord ? C'est des dipôles magnétiques avec un pôle nord magnétique, un pôle sud, comme sur un aimant, hein, comme sur une boussole. Et ça, ce sont des anomalies du champ magnétique du soleil. Voici le soleil entier, en bas à gauche, avec des tas de taches. Et voici un zoom sur ces taches. D'accord ? Chaque tâche a à peu près la taille de la Terre. Il y en a même des fois des plus grosses qui peuvent avoir la taille de Jupiter. Donc ça, c'est visible tout à fait. Même pour les plus grosses, on peut les voir. Les plus grosses, on peut les voir sans télescope. Il faut juste une paire quand même de lunettes d'éclipse. Hein. Mais à l'œil nu, quand il y a des énormes tâches sur le Soleil, vous pouvez les voir. C'est assez incroyable. De ces tâches sortent justement ces fameuses protubérances. Qui sont de l'hydrogène, en fait, en fusion, qui sort. Donc ceci, attention, ce n'est pas des volcans, ce n'est pas de la lave. On est bien d'accord, sur une étoile, il n'y a pas de volcan, il n'y a pas de lave. Déjà, les volcans et la lave, ce n'est pas à 6000 degrés, c'est bien plus froid. D'accord ? Donc là, on est sur de l'hydrogène en fusion. Voilà, ça, c'est des photos assez incroyables. On dirait qu'on est en rase-monte, là, en hélico, au-dessus du Soleil. Hein. Alors, j'ai même un petit film. Voilà, le Soleil est en rotation, car le Soleil tourne sur lui-même. Tout tourne dans l'univers. Rien n'est statique, et vous voyez qu'il y a des endroits où il y a des explosions, quand même. Alors là, c'est très accéléré. Vous voyez, le jour en bas, ça défile, hein, les heures et les jours. Le Soleil, il fait un tour sur lui-même en un mois, à peu près. Un mois. Et là, il était vert parce qu'on a mis un filtre vert. Il est jaune, ça vous a pas échappé. Voilà. Ça, c'est la couronne solaire. C'est-à-dire que vous pouvez cacher le soleil qui vous éblouit. Ça s'appelle une éclipse artificielle. Hein, les coronographes, ça s'appelle. On cache le soleil. Là, on l'a rajouté par-dessus pour vous montrer quelle est la taille du soleil, en fait. Et puis, du coup, ça vous montre tout autour du soleil ce qu'on appelle la couronne solaire. Et alors ça, il y a moyen de le voir sans tout ce bazar, c'est voir une éclipse totale de soleil en direct. Ah, il se trouve que j'y étais le 21 août. Le 21 août, il y a eu une éclipse totale aux États-Unis. J'ai fait le voyage exprès et c'était magnifique. C'est-à-dire, dans le ciel, vous avez le soleil tout noir parce que la Lune est juste devant. Et partout autour du soleil, vous pourriez regarder ça aux jumelles d'ailleurs, parce qu'il ne brille plus, il est caché. Et vous avez toute cette couronne autour qui est absolument magnifique. Hein ? Voici la couronne solaire, donc une autre petite vidéo. Voilà, le soleil, c'est le petit rond blanc qu'on a mis en cache devant. Et voyez, ces bouffées de matière qu'il envoie, il ne faut pas habiter à côté. Heureusement qu'on est à 8 mètres de la balle de tennis. Hein, parce que si on était à 20 cm, on ne serait pas là pour en discuter. Voilà. Alors, ça nous envoie quoi sur la Terre ? De l'énergie sous forme de chaleur et de lumière. Hein, c'est grâce au soleil qu'il fait jour. Sinon, il ferait toujours nuit. Et c'est grâce au soleil, aujourd'hui, par exemple, qu'il faisait chaud. Hein ? Parce que sans le soleil, il ferait moins de 270 degrés. Donc vous voyez qu'à 8 mètres, il nous réchauffe vachement. C'est une balle de tennis. Elle fait 6000 degrés en surface. Nous, on est là. S'il n'y avait pas la balle de tennis, il ferait moins de 270. Et on serait toujours pas là pour en discuter. Et grâce à cette balle de tennis qui est là-bas, il fait 20 degrés. C'est pas mal, même. Hein ? Ça réchauffe bien, quoi. Et il fait jour.
Voilà.
Voilà une éclipse de soleil avec la Lune. Hein, la Lune passe devant le soleil et vous voyez la couronne solaire et vous voyez même les lignes de champ magnétique. On voit qu'il y a un pôle nord vers 1h à peu près et le pôle sud vers 7h. Hein, c'est comme un aimant. Hein, vous avez peut-être fait l'expérience saupoudrée de limaille de fer autour d'un aimant. La limaille de fer serait partie le long des lignes de champ. C'est pareil, exactement pareil. On revient à notre tableau. L'hydrogène, l'hélium. Tout ça pour vous dire quoi ? Qu'est-ce que j'ai voulu dire ? Ouais, d'accord. D'accord. Ouais, je comprends. Alors, une étoile comme le Soleil, et toutes les étoiles d'ailleurs, transforme l'hydrogène en hélium. C'est ce qu'on a dit. Hein ? Et une fois que tout l'hydrogène est transformé en hélium, l'étoile arrive au bout de sa vie, en théorie. Le Soleil n'est pas une grosse étoile. Alors ça va vous aboucher un coin aussi. Hein, parce que vous vous disiez, une balle de tennis quand même, qui est 100 fois plus grosse que la Terre, c'est balèze. Hein. Ça, c'est une petite étoile. Il y a des étoiles qui sont 100 fois plus grosses que le Soleil. Les fameuses géantes bleues qui vont ensuite devenir des super géantes rouges, ça peut être 100 fois plus gros que le Soleil. Donc une petite étoile comme le Soleil, effectivement, quand elle va arriver à l'hélium, elle va peut-être obliger l'hélium à fusionner lui aussi. Et donc on va avoir des éléments un peu plus complexes, comme le carbone ou l'oxygène. Mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin, parce que c'est une petite étoile. Et alors je vous dirais, parce qu'il y a une super nouvelle, ça que ce soit une petite étoile, vous savez pourquoi ? Parce que les petites étoiles, elles vivent très longtemps. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que le Soleil est né il y a 5 milliards d'années. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est qu'il en a encore pour 5 milliards d'années. On est au milieu de la vie du Soleil. Hein. Donc tout à l'heure, je disais qu'il y avait des étoiles bébés, adolescentes. Le Soleil, il a 40 ou 50 ans, il est au milieu de sa vie. Il va bien. Hein. Et on en a encore pour autant. Voilà, bien. Oui. Ah, voilà. Pendant 5 milliards d'années, on aura de la chaleur, de la lumière. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, d'ailleurs, on devrait essayer de la capter, cette énergie, parce qu'elle est gratuite, celle-là. Le jour où on va vraiment se pencher dessus, peut-être que ça va aller mieux pour notre planète. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, voici donc, l'hélium peut se transformer en carbone, qui est l'élément numéro 6. Le carbone peut se transformer en azote, élément suivant. Et en oxygène aussi. C'est pour ça que carbone, azote, oxygène, c'est des éléments qui sont très courants aussi. C'est d'ailleurs des éléments qui nous constituent, qui sont les maillons même du vivant. Ce qu'on appelle chon, C-H-O-N. C'est un gros mot. Hein. Chon, C-H-O-N, c'est carbone, hydrogène, oxygène, azote. Avec ça, vous faites toutes les briques du vivant. Les acides aminés, les... tout ce que vous voulez. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ça veut dire que si l'univers a fabriqué de l'hydrogène et de l'hélium, et c'est tout au début, grâce aux étoiles, des petites étoiles comme le Soleil, on a fabriqué ensuite le carbone, l'azote, l'oxygène. Ça c'est bien, merci les étoiles. Les petites étoiles comme le Soleil. Mais il existe des étoiles bien plus grosses. Alors voici, je reviens sur la constellation d'Orion, ici. On retrouve notre baudrier d'Orion ici, et notre nébuleuse d'Orion ici. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est la géante rouge qui est ici, l'épaule gauche du géant, là, Orion. Elle s'appelle Bételgeuse. Bételgeuse, c'est une étoile, justement, qui doit faire 100 fois le diamètre du Soleil, oui, peut-être. Un énorme truc. Elle est tellement énorme que de nos jours, il y a le Aldébaran aussi, là, du taureau, qui est une géante rouge. De nos jours, on a réussi à prendre une photo de Bételgeuse, et c'est pas un point. On voit bien une sphère de gaz, tellement elle est énorme et tellement on a fait de progrès avec les télescopes. Ces étoiles-là, c'est des étoiles en fin de vie. Des étoiles en fin de vie, elles vont gonfler, pendant que leur cœur va se ratatiner pour faire des éléments de plus en plus complexes et de plus en plus lourds. Hein. Mais l'enveloppe, elle, va gonfler, et du coup, l'étoile elle-même va se refroidir, parce que toute sa matière va être répartie dans une sphère beaucoup plus grande. Donc les étoiles vont baisser en température, et en baissant en température, elles vont changer de couleur. Car c'est là qu'il faut oublier ces cours d'art plastique maintenant, parce que les couleurs chaudes, vous avez toujours, c'était le rouge, les couleurs froides, le bleu. Sauf qu'en physique, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Une étoile chaude, c'est une étoile bleue ou blanche. Une étoile tiède, c'est le Soleil, elle est jaune. Et une étoile froide, c'est l'étoile rouge. C'est l'inverse des robinets. D'accord ? Hein, les plombiers, ils n'ont pas trop de mille. Donc, c'est rouge, c'est froid, et bleu, c'est chaud. Donc, une géante rouge, c'est une étoile qui est arrivée en fin de vie. Elle fait plus 6000 degrés, elle doit faire 3000 degrés. C'est quand même chaud encore. Hein. Mais pour une étoile, c'est froid. Et voilà ce qui reste d'une géante rouge après des milliers d'années. Elle va s'étendre, et au milieu, c'est comme un ballon qu'on gonfle, si vous voulez. La membrane du ballon, de baudruche, qu'on va devenir de plus en plus translucide, avant d'éclater, bien sûr. Hein. Mais là, ça ne va pas éclater. Hein. Et à travers la membrane de cette géante rouge, qui s'est complètement distendue, on voit au centre le noyau de l'étoile, le cœur de l'étoile, qui a fabriqué des éléments de plus en plus lourds, de carbone, d'oxygène ou d'azote. Et le petit point brillant qui est au milieu, qui est vraiment au centre, là, on appelle ça une naine blanche. Naine parce qu'elle est toute petite, et blanche parce qu'elle est très dense et très chaude. Ça peut faire jusqu'à 20 000 degrés en surface, une naine blanche. C'est à ça qu'on va ressembler dans 5 milliards d'années. Voilà. Donc là, je ne fais pas le devin, hein, c'est que la science avance, et on sait que le Soleil, qui est une naine jaune au départ, elle finira comme ça, dans 5 milliards d'années, elle va grossir, jusqu'à englober l'orbite de la Terre, d'ailleurs. Vous voyez que d'une balle de tennis comme ça, elle va enfler jusqu'à arriver à 8-10 mètres de rayon. Donc là, il faudra peut-être déménager, je ne sais pas. Parce que ça sera plus possible. Hein. D'accord ? Voilà. Ceux qui vous déjoignent, il y a des sectes qui vous disent que sur la Terre, si on fait tout ce qu'il faut et qu'on est gentil, il y aura la vie éternelle. C'est pas possible. Hein. C'est-à-dire que dans 5 milliards d'années, il va falloir déménager, les mecs. Ça va être le brasier. Hein. Donc du coup, voilà donc ce qui va rester de notre étoile Soleil, de notre système solaire. La naine blanche au milieu, Et il y a des tas d'étoiles comme ça qui sont arrivées en fin de vie, qu'on peut observer dans le ciel. Avant, c'était la nébuleuse de la Lyre. Ça, c'est Dumbbell, c'est le bâton de cloche. Ici, vous avez Hélix, qui est magnifique. On dirait un iris d'œil. Là. Et au centre, vous avez toujours, plein centre, la naine blanche, le noyau moribond de l'étoile. Voilà. En voilà d'autres. C'est magnifique, ça. Hein. Voilà. Ça, on peut vous le montrer aussi au télescope. On les voit très bien. Hein, ces cadavres d'étoiles. Voilà. Alors, c'est très symétrique à chaque fois. Hein. L'étoile a gonflé. Elle a fait une bulle ou deux bulles, des fois. Hein. Et au centre, on a toujours notre naine blanche. Donc ça, c'est des étoiles, la fin de vie d'étoiles petites, comme le Soleil. Mais attention, il y a des étoiles plus grosses que le Soleil. Le Soleil, attention, sur cette représentation, il est là, c'est un pixel. À côté, j'ai Sirius qui est un peu plus grosse. Là, j'ai Pollux, j'ai Arcturus, j'ai Rigel qui est une énorme étoile blanche, parce qu'elle est très chaude. D'accord.
Et une étoile...
Ah, ça y est, ça marche plus. Une étoile comme le Soleil, elle deviendra peut-être comme Aldébaran. Vous voyez, une géante rouge énorme. Mais une étoile comme Rigel, elle va devenir une super géante rouge, comme Betelgeuse ou Antares. Là, on est sur des monstres énormes. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand le noyau va avoir cuit du carbone, de l'oxygène et de l'azote, il ne va pas s'arrêter. Parce que l'étoile est tellement énorme que le noyau va s'effondrer sous la masse énorme de l'étoile, par gravité, et on va continuer dans le tableau à fabriquer des éléments de plus en plus lourds. Donc on va passer, après le carbone, l'oxygène et l'oxygène de l'azote, au silicium, par exemple. Le silicium, c'est ce qui fait tous les cailloux, le sable, hein, la silice. Ça, c'est bien pratique si on veut fabriquer une planète plus tard. Hein. Le silicium. Vous avez aussi, on s'appelait jusqu'au fer, qui est l'élément 26. Hein. Et alors là, il y a un problème pour ces super géantes rouges, c'est que quand le noyau est arrivé à fabriquer du fer, le noyau n'est fait que de fer, cet élément, le fer, il est très spécial dans le tableau, c'est l'élément le plus stable de tout le tableau. Autrement dit, quand le noyau de l'étoile n'est fait que de fer, le fer, il dit stop, on ne fusionne plus, on s'arrête. Je suis stable et je ne vais pas me transformer en quelque chose de plus lourd. Gros problème pour l'étoile, elle a une panne de carburant. Et là, d'un coup, elle va s'effondrer sur elle-même, complètement. Ça s'appelle une implosion. D'accord ? Alors, je vous rassure, ça ne va pas arriver au Soleil parce que c'est une petite étoile minable. Mais les grosses étoiles, il n'y en a pas beaucoup. 1% des étoiles sont des étoiles comme ça. Elles vont imploser, donc exploser ensuite et derrière. Hein ? Comme on va parler à une époque des implosions des téléviseurs, avec une explosion à la sortie. Hein. Ça va faire ce qu'on appelle une supernova. Voilà. La supernova, c'est une étoile énorme qui est arrivée en fin de vie, dont le noyau était entièrement fait de fer et qui explose complètement. Voici une photo d'un champ d'étoiles. On a des milliers d'étoiles là-dedans. À gauche, en bas, c'est une nébuleuse, une pouponnière d'étoiles, vous savez ce que c'est, donc, où naissent des étoiles. Et vous imaginez bien que toutes ces étoiles, chacune est un soleil, chacune est une balle de tennis, hein. Chacune a sa propre histoire, chacune est au cours de son évolution, on ne sait pas si au centre il y a de l'hélium, ou du carbone, ou du fer. Et il y en a une, dans ce champ d'étoiles, en 1987, qui était arrivé au fer. On ne l'avait pas soupçonné parce qu'on ne les a pas toutes étudiées une par une. Hein. Et voilà la même photo, après février 87, il y a un truc qui est apparu. Vous voyez ? Où ça ? En haut. En haut, il y a une étoile qui est apparue, mais plus brillante que toutes les étoiles rassemblées autour. Une supernova, c'est une étoile qui est tellement brillante qu'elle peut être visible en plein jour dans le ciel bleu. La prochaine fois qu'il y en a une qui explose, on vous le dira. Hein, parce qu'on attend ça avec impatience. Celle-là, c'est une des plus proches qui a explosé, mais elle n'était même pas dans notre galaxie. Elle était dans ce qu'on appelle le grand nuage de Magellan, hein, qui est une petite galaxie qui tourne autour de la nôtre. Mais on attend avec impatience qu'il y en ait une qui explose dans notre galaxie pour voir dans le ciel bleu, en plein jour, le soleil et une étoile. Hein, et ça va durer quelques semaines. Voilà. Normalement, il y a une supernova qui explose par siècle. La dernière, elle a explosé il y a 4 siècles. Donc, il nous en manque 4. Donc peut-être ce soir, regardez, mais ça ne va pas tarder, il y en a une qui devrait péter. D'accord ? Surveillez Betelgeuse, surveillez Aldébaran, surveillez Antares, c'est des bons clients.
Hein ? Ces métamorphoses, elles se font sur quelle période ?
Ah, c'est une fraction de seconde. Elles implosent en une fraction de seconde. Et l'explosion, le flash de l'explosion va durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et après, vous allez voir, elles vont s'éteindre. Hein ? Comme après toute explosion. Voilà ce qui reste. Ça, c'est une étoile qui a explosé, qu'on a vu exploser en 1054. On se connaît exactement la date, parce que c'est un phénomène assez incroyable, c'est pour ça qu'on aimerait le voir. Ça va rater, on regarde toutes les nuits, on n'en a pas vu, encore. Et ça, c'est 1054 parce que les astronomes chinois, à l'époque, qui observaient vraiment très assidûment le ciel, l'ont noté sur leur tablette, hein, dans la constellation du Taureau, il y a une étoile qui a explosé, qui est apparue. On appelle ça supernova, parce que nova, on pensait que c'était une nouvelle étoile. On s'est planté complètement. C'est pas une étoile qui apparaît, c'est une étoile qui va mourir et qui disparaît. On a gardé quand même le terme de supernova. Donc pendant quelques jours, elle est apparue dans le ciel des Chinois, mais dans le ciel des Européens aussi. Hein. Les Français l'ont vu, je pense, à l'époque. Sauf qu'en 1054, la religion était tellement importante et il devait tellement se passer rien dans le ciel que personne n'en a parlé. Terrible ça, hein, c'est pas très scientifique. Mais bon, à l'époque, la science, elle n'existait pas trop encore. Hein. Voilà. Alors, on essaie de se sortir des croyances, parce que pour avancer en science, il ne faut pas croire à grand-chose, hein. Il faut croire en ce qu'on découvre, surtout. Donc là, les Chinois, ils ont eu la bonne idée quand même de noter la date. Et de nos jours, on a pointé un télescope vers l'endroit des cartes chinoises de 1054, et ils n'ont pas eu la berlue du tout. On a ça exactement à l'endroit qu'ils ont stipulé sur leur carte. On a une espèce de gros nuage qui n'est pas du tout rond comme les étoiles en fin de vie, comme le Soleil, mais une espèce de truc, l'étoile là, qui a explosé, son enveloppe a été déchirée dans tous les sens. Voilà ce que ça donne, hein, la nébuleuse du crabe. Et à l'intérieur, vous n'avez pas une naine blanche. Non, vous avez quelque chose d'encore plus dense, parce que l'implosion a fait un truc, mais d'une densité incroyable. Si vous pouviez prendre une petite cuillère de la matière de ce qui reste au milieu, là, ça pèserait à peu près la tour Eiffel. La petite cuillère. D'accord ? La densité de la matière qu'il y a là-dedans. On appelle ça une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons ou un pulsar. Donc au centre de cette nébuleuse du crabe, on a demandé à Hubble, toujours le même, de zoomer, et on a vu cet objet très bizarre, hein, comme un caillou qu'on aurait lancé qui fait des cercles dans l'eau. Hein, et là, on a le noyau de l'étoile qui fait à peu près la taille 20 km de rayon. Vous imaginez la densité du truc. Hein. Voilà, ça c'est une étoile à neutrons, un pulsar. Mais il y a pire. Le fameux trou noir. C'est-à-dire que les étoiles encore plus grosses, et là il n'y en a pas beaucoup, elles terminent en supernova aussi. Mais la densité est telle que c'est au-delà d'une étoile à neutrons et au-delà de ce qu'on peut décrire avec la physique actuelle, dont on appelle ça un trou noir, et on ne sait pas du tout à l'heure actuelle, malgré tous les progrès qu'on a fait, comment la matière est dans un trou noir. Tellement elle est compressée. D'accord ? C'est une singularité, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que le cadavre de l'étoile est dans un point. Donc la densité est infinie. Voilà, donc ça dépasse ce qu'on peut expliquer en physique. Et les trous noirs restent des objets très exotiques et très qui interpellent. Il y en a qui disent même que les trous noirs, c'est troublant. Il faut voir ça. Alors, mon histoire, on est au bout de notre enquête, en fait. Parce que mon histoire, elle nous a amené jusqu'au fer. Et on a dit le fer, il stoppe. Mais alors, comment vous expliquer que dans le tableau de tous les éléments qu'on a autour de nous, il y ait des éléments plus lourds que le fer. Parce qu'on comprend en fait que les étoiles ont pu cuire tous ces aliments jusqu'au fer, tous ces éléments, d'accord ? Mais regardez, après moi, dans tous ces éléments qui suivent, je vois des trucs pas mal, hein. Là, il y a de l'argent. Là, il y a il y a de l'or. Là, il y a de l'uranium, parmi les plus gros noyaux possibles. Ils ont bien été fabriqués quelque part, ces trucs-là. Hein? Avec où ils ont été fabriqués, et ça on le sait depuis quelques dizaines d'années, dans ces supernovas. Dans ces quelques supernovas, les énergies mises en œuvre sont telles que le noyau de fer, il a beau dire « je joue plus », dans l'explosion d'une supernova, on lui demande de plus son avis, et il fusionne en une fraction de seconde en donnant à Henri Bambel tous les éléments qui suivent. C'est pour ça que c'est des éléments très rares, l'argent, l'or, l'uranium, ça vaut cher, ça ne vous a pas échappé. Hein. Donc tout ça, ça vaut très cher.
Diamant ?
Alors le diamant, c'est pas pareil. Le diamant, c'est du carbone, c'est du carbone, hein, mais qui est très dense. C'est encore une autre manière. C'est pas fait par les étoiles, ça. C'est fait par la compression des roches terrestres. C'est encore autre chose. Mais là, on a des éléments. Hein. Donc vous avez compris que grâce à ces quelques supernovas, tous les autres éléments ont été possibles. Et on va arriver à la conclusion qui est assez incroyable. Voici des restes de supernovas. Alors celle-là, elle a pété il y a longtemps. Ce n'est pas les Chinois qui l'ont vu, celle-là. Parce que vous voyez qu'on est dans un grand champ d'étoiles et en faisant une photo à très longue pause, on a réussi à faire apparaître ces filaments à peu près concentriques, hein, d'une étoile. Il doit y avoir un trou noir au milieu. Mais bon, c'est le trou noir, on ne le voit pas. Et si je zoome sur ces trucs-là, alors on a ce qu'on appelle les dentelles du cygne, qui sont magnifiques. Ça aussi, on peut le voir avec un télescope d'amateur. Hein. Si je rentre dans ces volutes de gaz, voilà, c'est très très beau, voyez. Et si je zoome vraiment, dans ces volutes de gaz, il y a quoi? Il y a de l'hydrogène, il y a de l'hélium, il y a du carbone, du fer, mais aussi de l'or, de l'argent, de l'uranium. Il y a tout ça là-dedans. Hein, ça laisse rêveur. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette matière? Cette matière, vu que ces étoiles énormes vivent très peu de temps, elles n'ont pas eu le temps de sortir de la nébuleuse qui les a créées, qu'elles ont déjà explosé. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles enrichissent la nébuleuse avec tous leurs éléments. Et les prochaines étoiles qui vont naître vont être enrichies de tous ces éléments. Donc, le Soleil, pourquoi il a tous les éléments déjà? C'est parce qu'il est né d'une deuxième génération d'étoiles. Avant lui, il y a des étoiles énormes qui ont explosé. Et la nébuleuse qui a donné le Soleil, qui a donné pratiquement toutes les autres étoiles maintenant, hein, sont faites de tous ces éléments. Et c'est grâce à ces supernovas qui étaient là avant nous, hein, avant 5 milliards d'années, qu'on est là pour discuter. Parce que pour faire des chaises, un vidéoprojecteur, mais aussi des cheveux, de la peau et des dents, il ne faut pas que l'hydrogène, de l'hélium. Il faut tout. Dans votre corps, vous avez du magnésium, du sodium, de l'or, de l'argent. Vous avez tous les éléments en faible quantité, mais il faut tout ça pour faire, par exemple, vos cheveux. Donc, on arrive à la conclusion assez incroyable, et ça, ça fait pas longtemps qu'on le sait, que nous ne sommes pas de simples spectateurs d'un ciel qui est au-dessus de nous. Nous sommes directement issus du cosmos. Hein? Et Hubert Reeves, donc, quand il nous traite de poussière d'étoiles, c'est exactement ça. Je crois qu'on a compris, au bout de notre enquête, que ça, c'est une poussière d'étoiles. Pour faire une planète, il faut du silicium, il faut de l'eau. Pour faire de l'eau, il faut de l'hydrogène, mais de l'oxygène. Il faut faire des arbres, il faut des dalles, du carbone. Il faut tous les éléments pour faire ça. Et pour nous faire aussi. Donc il y a beaucoup de gens qui cherchent des météorites parce qu'ils veulent tenir toujours un objet qui vient de l'espace. Mais si vous faites ça, vous touchez un objet qui vient de l'espace. Parce que nos atomes qui nous constituent ont été fabriqués dans l'explosion de supernova qui était là avant le système solaire. Donc vous allez vous regarder dans la glace différemment de ce soir. Voilà, vous êtes des poussières d'étoiles. Ayez un peu de respect quand même à qui vous êtes. Hein. Voilà, je vous remercie. Il était branché.
Ouais. Merci beaucoup Jean-Noël Sarraï. C'est l'heure des questions avant le repas partagé.
On peut rallumer si vous voulez.
C'est le tableau juste que je verrai à gauche. Vous avez la parole.
Le plus dur, c'est la première question. Ou la première réflexion, peut-être.
Oui, la première réflexion, c'est celle qui vient en dernier, peut-être en premier, on ne sait pas. Mais, l'équilibre dans tous ces éléments que nous constituent, enfin, cette espèce de vie d'élément. Donc, la première question qui vient, c'est forcément, la vie existe peut-être différemment, mais forcément ailleurs. D'une façon très différente.
Je pense qu'on ne peut pas. On ne peut pas l'écarter. Ça paraît évident. Hein. Ça paraît évident à partir du moment où on a l'exemple d'une planète où ça s'est passé, la nôtre. À partir du moment où la planète Terre est une planète lambda qui tourne autour d'une étoile lambda dans une galaxie lambda, parce que des galaxies, il y en a des milliards. D'accord ? Je ne vous l'ai pas dit, ça, encore. Donc, je veux dire, je ne vois pas pourquoi ce principe-là ne se serait pas répété ailleurs. Voilà. Alors, en science, par contre, on ne peut pas affirmer quelque chose tant qu'on ne l'a pas prouvé. Par exemple, jusqu'en 1995, on ne savait pas qu'il existait d'autres systèmes planétaires. Hein, on ne connaissait que le Soleil avec ses planètes. En 1995, on a découvert ce qu'on appelle la première exoplanète. Une planète qui tournait autour d'une autre étoile. Ça fait 20 ans. Là, 20 ans après, on en est à 3 ou 4 000 exoplanètes découvertes. Donc ça pullule les planètes. Et il y a des planètes qui sont à 8 mètres de leur étoile, hein, je le fais simple, et qui sont ni trop chaudes ni trop froides, et il y a sûrement du monde dessus. Hein. Alors attention, après du monde, ça peut être juste des végétaux, des bactéries, et on n'y suitera peut-être pas avec eux. Ça, c'est une autre question. Hein. La vie intelligente, ça, c'est peut-être pas gagné partout. Hein. La vie qui peut discuter avec des antennes et des paraboles. Mais de la vie, il doit y en avoir partout. C'est évident. Hein. Bon, pour l'instant, on n'a pas la preuve. Mais la preuve, elle peut arriver dans quelques années. Parce qu'on ne va pas avoir des images, bien sûr, hein, des arbres qui sont sur les autres planètes, ça ne vaut pas... Par contre, on va avoir toujours par la spectroscopie, donc par l'analyse de la lumière, hein, c'est ça qui est vraiment qui a révolutionné l'astronomie à la fin du 19e, vous avez compris, par l'analyse de la lumière de ces exoplanètes, si on voit dans le spectre de ces planètes, le spectre de l'eau, par exemple H2O, le spectre de la molécule d'eau, les lignes de l'ozone, qui est O3, des lignes de méthane, CH4, etc. Si on voit ces signatures-là, ben là on aura des fortes présomptions de se dire ça, c'est des éléments qui sont créés par une activité biologique. Voilà. Et ça, ça peut arriver vraiment. Hein, dans une dizaine d'années, on risque d'avoir ce scoop énorme que de la vie existe ailleurs. Hein. Après, discuter avec, ça c'est autre chose. Hein. Là, je crois qu'il faudra attendre peut-être 2, 3, 100 ans, ou milliers d'années, je ne sais pas. On verra. Autre question ?
Une autre question. Oui, oui, vous dites que. Que oui, sans le Soleil, là, 210 degrés. Oui. Mais comme l'espace n'est pas conducteur, est-ce que là, par exemple, la Terre ne conserverait pas un peu sa température alors qu'elle en produit déjà de la chaleur ?
Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Déjà, l'espace conducteur, ça ne me plaît pas. C'est-à-dire que c'est du rayonnement. Voilà. Hein ? C'est pas comme une plaque de métal qu'on va chauffer qui va conduire l'énergie. Là, c'est des ondes électromagnétiques qui véhiculent, par le biais des photons, cette énergie. D'accord ? Donc là, on peut être très loin du Soleil. À partir du moment où Neptune est très loin du Soleil, à 200 mètres de la balle de tennis, eh bien, elle n'est pas à moins de 270, elle est à moins de 200. C'est-à-dire que même à cette distance-là, la balle de tennis, elle lui rajoute 70 degrés. Hein ? Et ça, ce n'est pas par conduction. Hein. C'est vraiment par onde électromagnétique. Et ensuite, une autre chose, vous dites que la Terre, imaginons que le Soleil disparaisse là, est-ce qu'elle deviendrait de suite à moins de 270 ? Vous avez raison, non, parce qu'elle a son énergie propre. Hein. Quand on fait de la géothermie, etc., la Terre, c'est un gros morceau de la nébuleuse de départ qui est en train de se refroidir un peu tous les jours, hein, comme un gâteau qu'on sort du four. Hein, ça se refroidit par les volcans, par les geysers, tout ça, c'est l'énergie qui sort et la chaleur qui sort de la Terre, et la Terre se refroidit un peu plus tous les jours. Hein. Mais elle est encore très chaude. Hein. Au centre de la Terre, il fait 6000 degrés, on pense. Hein. c'est-à-dire à peu près la même température qu'à la surface du Soleil. Une coïncidence. Oui.
Oui, quelle est votre position par rapport au Big Bang?
C'est-à-dire?
Mais c'est-à-dire à l'origine de l'univers.
Est-ce que c'est le Big Bang ou pas?
Ouais.
Alors, il faut savoir que le Big Bang, c'est pas une vérité scientifique, c'est une théorie.
Oui.
Hein? C'est une théorie. Comme tout à l'heure, je vous ai dit que la manière dont les étoiles naissent, c'est une théorie. Bon, il se trouve que elle fait à peu près l'unanimité, cette histoire de comment les étoiles naissent. Par contre, le Big Bang, c'est une théorie, mais il y a encore des zones d'ombre. On n'est pas du tout sûr, encore, que l'univers est né d'une singularité qui aurait explosé, hein, que ce serait parti d'un atome primitif et qui aurait donné tout le reste.
Ouais.
Il y a beaucoup d'astronomes qui disent c'est un peu peut-être simple comme explication, et peut-être la vérité est bien plus complexe que ça. Pour l'instant, c'est une théorie. Voilà. C'est la théorie la moins mauvaise à l'heure actuelle, voilà, comme on peut dire, le Big Bang. Parce qu'elle vérifie à peu près beaucoup d'observations qu'on a faites.
Mmh.
Parce que pour qu'une théorie tienne, c'est ça. Il faut qu'elle, non seulement vérifie les observations qu'on fait, il faut qu'elle puisse confirmer des prédictions aussi. C'est-à-dire, avec une théorie, on peut dire, ah ben, on devrait observer tel truc. Hein. Par exemple, Einstein, quand il y a un siècle, il a fait sa théorie de la relativité générale, il avait dit, on peut peut-être observer, à cause de la courbure de l'espace-temps dû à des masses, des rayons lumineux, pas droits, mais courbes. Et bien, on les a observés depuis.
Oui,
ça, c'est énorme pour une théorie comme...
Et la, voilà. Et la création de matière aussi.
Voilà. Mais pour le Big Bang, on n'a pas encore tous les voyants ouverts. Hein. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Je vous dis, c'est la théorie qui marche le mieux pour l'instant, ou le moins mal. Hein. Mais beaucoup de chercheurs, beaucoup d'astronomes pensent que c'est bien plus complexe que le truc qui a explosé au départ.
Puis il y a une théorie qui dit aussi que, bon, il y a peut-être quelqu'un qui, au départ...
Ah oui, ça va entrer dans la religion. Alors les religions, vous savez, moi je vais pas parler longtemps des religions, parce que si je veux faire des ennemis partout, là. Mais une religion, c'est quoi? Les hommes, hein, ça c'est mon point de vue personnel, hein, bien sûr. Les hommes, ils ont inventé les religions, j'y vais dur, parce qu'il leur fallait des réponses à des questions auxquelles ils n'avaient pas de réponses. Et les religions voulaient donner des réponses. Et ça va mieux.
Oui.
Un scientifique digne de ce nom, il ne doit pas chercher une béquille comme celle existentielle. Hein. S'il a une question et qu'il n'a pas de réponse, il doit avoir l'honnêteté de dire « je ne sais pas ». Ou « je ne sais pas encore ». Peut-être que plus tard, on aura la réponse. Mais pour l'instant, « je ne sais pas » et je ne vais pas dire qu'il y a quelqu'un qui a allumé le truc. Parce que je n'en sais rien, je n'ai pas la preuve. Hein. Voilà.
Merci.
Oui. Je vais me faire tuer après.
Comment se fait-il qu'en fait, toute la matière dont vous parlez ne représente que 5% du visible? Quid de la matière noire ou de la lumière noire?
Alors ça, c'est vrai que j'avais évité de vous en parler ce soir, parce que là, on est reparti pour une heure. Et pour ceux qui lisent les revues scientifiques, effectivement, les milliards de galaxies qui sont visibles dans l'univers, et ça, c'est très récent, effectivement, ne sont que 5%. On pense, hein, attention, c'est une théorie encore une fois, hein, ce ne sont que 5% de la matière qui doit être contenue dans l'univers. Il y a 95% de matière qu'on ne voit pas. Ben, nous voilà bien. Hein. Pourquoi? Je ne vais pas vous rentrer là-dedans parce que c'est une autre conférence, hein, mais en observant des galaxies, on a vu que des étoiles au bord de galaxies tournaient bien plus vite que ce qu'elles auraient dû, compte tenu de la masse de la galaxie qu'on avait mesurée. Donc on pense qu'il y a de la masse cachée ailleurs, et sous une forme invisible, sinon on l'aurait vu. Donc en ce moment, les astronomes, ils sont dans la merde. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas du tout, et ça fait 20 ans, hein, je vous dis que c'est récent, ça fait 20 ans, mais qu'on parle de matière noire, d'énergie noire, on a eu plein de candidats possibles, ils ont été testés par des théories, et pour l'instant, rien ne marche. Donc il y en a qui commencent à dire, attendez, peut-être que votre histoire d'énergie noire ou de matière noire, ça n'existe pas, et qu'on a mal compris le phénomène au départ.
Il y en a qui sont en train même de dire que les lois universelles, les constantes universelles, ne seraient pas constantes. Par exemple, le grand G de la gravitation, hein, qui est la formule de Newton, on dit que c'est une constante, et il y en a qui disent que peut-être ce n'est pas une constante, qu'elle va arriver en fonction du temps. Ben là, il faut revoir toute la physique. Hein. Voilà, on en est là. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est mal.
Et la vitesse de la lumière aussi, à ce moment-là.
Et tout à fait. Il y en a qui disent que la vitesse de la lumière ne serait pas une constante et qu'elle varierait en fonction du temps, de l'âge de l'univers. Hein. Ce qui est sûr, c'est que l'univers grandit. Hein. Ça, c'est clair. On sait que l'univers est en expansion. Mais ce n'est pas parce qu'il est en expansion qu'il est forcément parti, en passant simplement le film à l'envers d'un petit point. C'est peut-être bien plus compliqué que ça, et je dirais même autre chose, que nos petits cerveaux de mammifères humains sont peut-être pas capables de comprendre ce qui s'est passé. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. On n'est pas Dieu le Père, hein. C'est clair. Hein. C'est-à-dire qu'on est limité par le cerveau qu'on a dans la boîte crânienne. Là. Même Einstein, il a beau être génial, il y a des trucs peut-être qui seront à jamais au-delà de sa compréhension. Hein. Vous aurez beau expliquer les intégrales à certaines personnes, ils ne les comprendront jamais. Donc on a chacun nos limites. Hein, et le cerveau humain, il a ses limites. Voilà. Donc, si tant est, il y a quelque chose à comprendre dans l'univers, il se peut que ce quelque chose soit au-delà de notre comprenette. Hein. Ça, c'est aussi une autre chose à intégrer.
Ça rassure.
Oui, ça rassure. Ça... Le faire de l'astronomie, c'est une somme d'humilité. Hein. On est petit sur une planète minable autour d'une étoile minable et on ne sait pas grand-chose. Hein. Mais ce qui est génial, par contre, c'est que tout ce que je vous ai dit là, c'est avec notre petit cerveau qu'on l'a trouvé. Ça, c'est quand même incroyable. Hein. On a inventé des télescopes sans aller voir les étoiles, on les a rapprochés avec des miroirs ou des lentilles. C'est génial. Hein. Mais c'est peut-être la limite de ce qu'on peut faire. Voilà.
Vous parliez de preuves, hein, en particulier pour le Big Bang, mais le rayonnement fossile qui reste à 3 degrés, est-ce que ce n'est pas une preuve d'une explosion initiale?
Alors, attention, il faut être précis, je suis spécialiste. Alors, quand je vous ai dit qu'on était à moins de 270, c'est vrai et c'est faux. Enfin, je suis obligé d'aller dans les détails. En fait, normalement, le zéro absolu, c'est-à-dire quand il n'y a aucun mouvement de particules, on appelle ça le zéro absolu, on ne peut pas descendre plus bas, plus rien ne bouge. C'est moins de 273 degrés Celsius. D'accord ? Il se trouve que l'univers, il n'est pas à moins de 273, il est à moins de 270. Autrement dit, il est à 3 degrés au-dessus des zéros absolus. Et il faut expliquer ça. Pourquoi l'univers est tiède ? Enfin, tiède, hein ? 3 degrés de plus que 0. D'accord ? Absolu. Pourquoi il est à moins de 270 ? On pense que ça peut être les restes de cette explosion énorme du Big Bang, qui était très chaude à l'époque, il y a 15 milliards d'années. La théorie le fait remonter à peu près par là. Et en 15 milliards d'années, qu'est-ce qu'il a fait ? Notre univers, il a refroidi, jusqu'à être à 3 degrés. Voilà. Voilà comment on explique ces 3 degrés. La théorie du Big Bang l'explique pas mal, ça. Mais il y a d'autres théories. Hein ? Voilà.
Comme vous disiez, on pourrait passer toute la nuit.
C'est ça, oui.
À poser des questions.
Mais on peut poser des questions autour du buffet, là-bas.
Oui, justement. Si vous voulez bien, on peut passer au repas partagé. Mais avant ce repas partagé, je voudrais d'abord vous remercier.
Merci.
Au nom de tous les spectateurs et de la Pupangole. Et puis, au nom de la Pupangole, je voudrais vous parler de la prochaine rencontre, qui est une rencontre exceptionnelle qui aura lieu le 6 octobre sur l'art africain par Millet Iba. Si vous regardez tout à l'heure, lors du repas partagé, vous le reconnaîtrez. Il est parmi nous. Il nous a fait le plaisir de venir écouter la conférence. Voilà. Et le 6 octobre, donc, cette conférence, c'est un vendredi, et de Montesquieu. Alors je vous convie à y aller aussi. Maintenant, vous pourrez continuer la discussion avec Jean-Noël Tarras.
Oui.
Bon, ça va.
Bon, ouais.
Oui, bah, ça va.
C'était une chose en pratique.